Le débat du jour, Jean-François Cadet.
Les biocarburants portent-ils une part de responsabilité dans la flambée des matières premières? Qu'il s'agisse de l'éthanol issu de la betterave à sucre ou du blé, ou du diester issu du colza et du tournesol, on les présentait il n'y a pas si longtemps comme des alternatives écologiques au pétrole, des carburants verts qui seraient, disait-on, l'une des clés du développement durable. Aujourd'hui, les voici cloués au pilori, accusés d'être responsables des émeutes de la faim qui secouent depuis plusieurs semaines plusieurs pays du Sud. Et les phrases choc sont de sortie, les plus hautes autorités mondiales parle de problèmes moraux et même de crimes contre l'humanité. Alors faut-il un moratoire sur les biocarburants? Menace-t-il la sécurité alimentaire de la planète? Leur intérêt écologique fait-il le poids face à la flambée des prix des produits alimentaires? Sont-ils un bouc émissaire idéal qui permettrait d'éluder les vraies questions? Pour en débattre avec nous, Alain Jeanroy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves et face à vous, Fabrice Nicolino, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Terre Sauvage, chroniqueur au journal La Croix et l'auteur chez Fayard d'un livre intitulé « La faim, la bagnole, le blé et nous », un livre sorti l'an dernier et dans lequel vous écriviez déjà « Les carburants ont déjà tué ».
Bah oui, c'est évident. Enfin, moi, je ne suis pas devin. Je suis pas Dieu le Père. Et j'ai travaillé en effet sur cette question. Je travaille sur cette question depuis environ 2 ans. Si j'ai pu écrire ce livre il y a 1 an et s'il a été publié il y a 6 mois, hein, et qu'il annonçait en effet les émeutes de la faim, très exactement ce qui se passe en ce moment, c'est que certainement j'avais de bonnes raisons.
Mais alors, les biocarburants tuent déjà. C'est ce que vous écriviez à l'époque. Ça veut dire que Monsieur Jeanroy ici présent est un assassin?
Ben, je dirais à Monsieur Jeanroy que je respecte infiniment. Je ne connais que depuis quelques minutes, mais je le respecte bien entendu.
C'est gentil.
Je dirais que l'industrie des biocarburants n'est certainement pas une industrie comme une autre. C'est en effet une industrie criminelle, tout simplement.
En quoi?
Elle est criminelle tout simplement parce qu'elle concurrence directement l'alimentation des humains. Et il n'y a pas d'échappatoire dans le monde tel qu'il est, sur la planète telle qu'elle est, avec les surfaces agricoles telles qu'on les connaît. Il n'y a pas d'échappatoire. Si on veut nourrir les humains, il faut utiliser des surfaces agricoles. Si on utilise une surface agricole croissante, toujours plus importante, pour faire des biocarburants, on affame les peuples.
Nourrir les hommes ou nourrir son moteur, il faut choisir, Alain Jeanroy.
Écoutez, je crois qu'il y a... Tout ça, à mon avis, me semble un peu réducteur. Si je prends par exemple l'exemple de l'éthanol, le bioéthanol est produit à partir de canne à sucre, qui elle-même peut être également utilisée pour faire du sucre. Le premier producteur d'éthanol, c'est le Brésil, et le premier producteur de sucre, c'est aussi le Brésil. Et il se trouve que le sucre, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il n'y a aucune flambée du prix du sucre. Donc sur cet exemple très concret, où véritablement c'est la même matière première, la canne, qui sert à produire les deux produits, où il y a des énormes quantités qui sont à la fois données pour le sucre et pour l'éthanol, vous voyez, il n'y a aucun effet des biocarburants sur l'alimentaire.
Fabrice Nicolino sur le sucre. Après, je vous redonnerai la réponse, mais il va vous répondre sur ce point précis.
Je veux pas montrer...
Il n'y a pas de problème sur le sucre, dit Monsieur Jeanroy, c'est vrai ou pas?
Je ne veux pas me montrer désagréable. Pour moi, ça n'a strictement aucun sens, pour une raison simple. Nous parlons là d'une flambée qui frappe le prix des denrées alimentaires de base, des plantes alimentaires et des céréales. Je peux vous expliquer ça en quelques secondes, c'est très simple.
Rapidement.
Les États-Unis consacrent 30% de leur production de maïs à la fabrication d'un bioéthanol, c'est un biocarburant. 30% de la production des États-Unis, ça veut dire 70 millions de tonnes de maïs qui, il y a 3 ou 4 années, arrivait sur le marché mondial de l'alimentation, soit pour les humains, soit pour le bétail destiné aux humains. Ces 70 millions de tonnes ont été soustraites au marché alimentaire mondial en quelques années. Les consommateurs qui ne trouvent plus de maïs aujourd'hui sur le marché mondial se reportent sur d'autres céréales ou plantes alimentaires, que ce soit le blé, le riz, peu importe, et ça a entraîné en cascade, par contagion et substitution, la folie actuelle sur le prix des denrées alimentaires, des céréales et des plantes alimentaires.
Alors, voilà. Alors je partage ce que dit M. Nicolas, parce que je suis assez en désaccord avec la façon dont les États-Unis ont mené le développement d'éthanol. Je pense que tout ceci est totalement excessif. Mais par contre, des pays comme le Brésil ou l'Union Européenne font des choses beaucoup plus raisonnées, comme je l'indiquais pour le sucre. Il y a une chose sur laquelle je voudrais quand même insister, c'est la disponibilité en terre. Notre planète, c'est 500 millions de kilomètres carrés, 350 millions d'océans, 150 millions de terres émergées. Et sur ces terres émergées de 150 millions de kilomètres carrés, il y en a 15 qui sont cultivées. Si après vous retirez les montagnes, si vous retirez les déserts et toutes les zones qu'il ne faut pas toucher, aquatiques, pour la sauvegarde de l'environnement, vous en retirez une quarantaine. Donc il en reste encore 3 fois plus que nous cultivons actuellement, qui sont disponibles pour développer une culture alimentaire. Et ça, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de l'FAO.
Alors, donc, qu'est-ce que dit,
c'est très simple. On a orienté le développement agricole des pays en voie de développement particulier, là je dis qui, c'est le FMI et la Banque mondiale, sont des cultures d'exportation. Cacao à Côte d'Ivoire, coton au Burkina Faso, arachide pour le Sénégal et bien d'autres. Il n'y a qu'un pays qui véritablement a résisté au FMI et à la Banque mondiale, c'est l'Inde. Et l'Inde, aujourd'hui, est autosuffisant.
Donc c'est la faute aux institutions internationales.
Je pense qu'effectivement, il y a ceux qui hurlent le plus actuellement, et M. Zelic en est, et de l'ONU en particulier, ont une lourde responsabilité sur tout ce qui a été fait depuis 25 ans. La Banque mondiale, depuis 25 ans, n'avait pas parlé d'agriculture. Dans son rapport annuel, elle vient d'en parler, et elle commence à vouloir remettre l'agriculture au centre du développement de ces pays.
Fabrice Nicolino, le fond du problème, comme le dit Alain Jean-Roy, c'est un problème de stratégie mondiale, qu'il s'agisse du FMI et surtout de la Banque mondiale ?
Ah, sûrement pas. Je trouve M. Jean-Roy assez gonflé, si vous me passez l'expression, de mettre en cause les institutions internationales qui ont leur responsabilité. Elle est écrasante. Pour dédouaner plus aisément l'agriculture industrielle française, dont il est le parfait représentant ce soir, l'agriculture industrielle française est derrière à 100% l'industrie des biocarburants. Le gouvernement français subventionne à hauteur de centaines de millions d'euros l'industrie des biocarburants en France, alors qu'il est...
Mais pour des objectifs qui sont peut-être louables, à savoir effectivement la lutte contre la pollution, chercher des alternatives au pétrole,
c'est
quand même un vrai problème.
Il y a bien entendu un problème pétrolier, mais c'est pas du tout pour cette raison que l'industrie des biocarburants a pris ses aises et ses quartiers dans un pays comme la France. C'est une histoire qui est facile à reconstituer, et je l'ai reconstituée. Il se trouve que les céréaliers et les betteraviers avaient des problèmes de surproduction il y a une vingtaine d'années et qu'ils ont constitué de manière extrêmement banale et j'ajoute légitime un lobby industriel en faveur des biocarburants pour tout simplement écouler leur production.
Alors Alain Jean-Roy, est-ce que le soutien politique donné aux biocarburants c'était tout simplement pour aider les producteurs dont vous êtes, puisque vous êtes l'un des représentants des producteurs de betteraves, à écouler leur stock?
Absolument pas, puisque actuellement les matières premières que nous livrons aux usines qui nouvellement créent de production de biocarburants sont payées moins cher que le débouché alimentaire. Donc il est bien évident que si vraiment on voulait maximiser notre revenu, on s'orienterait beaucoup plus alimentaire. Je crois qu'il faut véritablement faire attention à toute cette problématique agricole. Encore une fois, l'Union européenne a développé une politique agricole commune et sachez que c'est la seule zone qui a été capable de réagir en quelques mois puisque nous venons de remettre en culture 10% de la surface agricole de l'Union européenne. Donc globalement, l'Union européenne, dès la récolte prochaine, va contribuer à apporter plus d'offres à cette demande.
Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre les objectifs des biocarburants et l'objectif de nourrir convenablement le monde.
Je ne pense pas, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'énormes disponibilités en terre, la FAO l'a dit. La seule chose qu'il faut, c'est faire un transfert financier au profit des pays qui ont le besoin de recourir à l'autosuffisance alimentaire, en leur permettant d'acheter les intrants et bien évidemment les semences, etc. Et surtout de construire les infrastructures qui permettent à développer leur agriculture. Donc il n'y a pas de... La seule chose sur laquelle j'aurais une réserve, et encore une fois M. Nicolino l'a dit, c'est vrai que le développement effectué d'éthanol aux États-Unis est excessif. De la même façon, si vous prenez un éthanol que l'on fabrique à partir d'une centrale, d'une distillerie à charbon et que la matière première agricole vienne sur des terres déforestées, c'est une catastrophe. Mais c'est pas du tout ni le modèle brésilien, ni le modèle européen.
Ce qui va d'ailleurs dans le sens de ce que disait le président Lula, le président brésilien Fabrice Nicolino, il disait en s'attaquant tort aux biocarburants, le gros problème c'est finalement le protectionnisme des pays riches.
Écoutez, je suis désolé de d'avoir l'air de polémiquer avec tout le monde, mais le président Lula, qui est un président de gauche, on va dire, un petit peu l'équivalent de ce qu'a été notre président Mitterrand.
Qu'on peut difficilement accuser d'être afféodé aux intérêts des grandes multinationales et des lobbies agricoles et céréaliers.
Et pourquoi non?
Non, je ne sais pas, je pose la question.
C'est un métallo de gauche qui a pris le pouvoir au Brésil. Fort bien, il a été réélu, fort bien. Il défend les biocarburants pour une raison évidente, c'est qu'il croit, et peut-être a-t-il raison après tout, que grâce à cela, grâce à une politique d'exportation des biocarburants à base de maïs, de canne à sucre, le Brésil va devenir un des grands de la planète, un des sept plus grands de la planète. Donc il rêve finalement de faire entrer son nom dans l'histoire grâce aux biocarburants. Et il en oublie l'évidence. La forêt amazonienne flambe comme jamais depuis 10 ans parce que le front agricole se déplace au Brésil, tout simplement parce qu'on utilise de plus en plus massivement les zones agricoles pour y planter de la canne à sucre ou du soja destiné aux biocarburants, et que les éleveurs, ne disposant plus de terres, de pâturage pour leurs troupeaux, brûlent la forêt tropicale. Des dizaines de témoignages de communautés paysannes dans ce pays du Brésil qui sont chassées de leurs terres parce qu'on y développe, et on y développe dans l'arbitraire le plus total, les biocarburants chers au cœur de mon interlocuteur ce soir.
La forêt amazonienne brûle, nous dit Fabrice Iconino, ça veut dire Alain Jeanroy que les biocarburants finalement ne seraient pas si écologiques que ça.
Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait produire des biocarburants sur des terres déforestées. C'est exactement le contraire de ce que j'ai dit.
Mais le premier objectif des biocarburants, c'est précisément le développement durable.
Encore une fois, on nous explique
que ça pollue moins que le pétrole.
Ah, c'est clair. Les biocarburants ont deux vertus.
C'est faux.
Ils ont la première de répondre à une certaine indépendance énergétique des pays comme le Brésil, qui sont très dépendants de l'extérieur en matière pétrolière en particulier, ou l'Europe, et puis de répondre à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Mais c'est totalement faux. Pardonnez-moi.
Fabrice Iconino nous dit un truc.
C'est totalement faux.
C'est-à-dire que tout le discours qu'on entend depuis des années,
c'est de la propagande, et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai lu personnellement.
Un biocarburant n'est pas plus propre qu'un carburant traditionnel.
Les biocarburants sont une bombe climatique, et ce n'est pas moi, Fabrice Iconino, qui le dit. Ce sont certains des plus grands scientifiques existants aujourd'hui dans le monde, dont le prix Nobel de chimie 1995, Paul Crutzen, qui a fait une étude complète sur la question. En fait, la façon dont on produit des biocarburants sur Terre, tous les processus complexes qui concourent à la production de biocarburants font des biocarburants une véritable bombe climatique. Les biocarburants, il faut le savoir, et il n'existe aucune étude scientifique prouvant le contraire, il faut le savoir, c'est pire que le pétrole du point de vue du climat. Je dis bien pire que le pétrole.
Alors Alain Jeanroy, est-ce que les biocarburants sont une arnaque écologique, comme
non,
le dit Fabrice Iconino?
Absolument pas, sinon ça se saurait.
Ça se sait de plus en plus.
Alain Jeanroy vous répond.
Donc ça se saurait. Non, je crois que actuellement on est face à des choses très graves qui sont cette crise alimentaire. Je crois que le dernier Davos a indiqué que cette crise alimentaire, c'était une des quatre grandes menaces de la planète. Il y a des moyens de résoudre ce problème. Ce n'est pas les quelques pourcents de terres disponibles que vont utiliser les biocarburants, parce que les biocarburants n'ont pas du tout de mission à remplacer le pétrole. C'est une contribution pour diminuer la pollution automobile. Alors certains vous diront, écoutez, soyons modérés, laissons la voiture au garage, etc. Donc c'est une solution. Effectivement, s'il n'y a plus de voiture, il n'y aura plus de pollution.
Mais on peut aussi, Alain Jeanroy, produire du biocarburant à partir de produits non alimentaires. Est-ce que c'est pas ça la solution d'avenir?
Alors, on a actuellement des bilans écologiques qui sont très bons avec la première génération. Certains disent on peut transformer la lignocellulose, c'est-à-dire le bois, le miscanthus, enfin tout ce qui est un
les
peu
déchets agricoles,
voilà,
les débris végétaux.
Mais,
ouais.
Bon, pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments qui fassent que, à la date d'aujourd'hui, sur ce que nous savons faire, les bilans soient meilleurs. Par contre, dans 8 ou 10 ans, on verra bien. Nous-mêmes, nous investissons dans ces carburants de deuxième génération.
Fabrice Iconino, est-ce que vous y croyez à ces carburants de deuxième génération qui donc permettraient de produire des biocarburants sans utiliser les produits agroalimentaires?
On peut faire des biocarburants à partir de n'importe quel végétal, y compris des algues, et on le fera probablement. Est-ce que ça sera commercialement rentable? Personne ne le sait, personne n'est capable de vous le dire aujourd'hui. C'est peut-être dans 8 ou 10 ans. Mais de toute façon, imaginons, bien sûr, dans 8 ou 10 ans. Dans 8 ou 10 ans, combien de gens seront morts de faim? Quelles surfaces de forêts tropicales ont disparu et où en sera le climat mondial? Et outre cela, les biocarburants, il faut les produire sur des surfaces. Et donc il faudra fatalement utiliser des surfaces agricoles ou des forêts tropicales. Rien n'aura été changé au désastre en cours.
Merci beaucoup à tous les deux, Alain Jeanroy, président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, Fabrice Iconino, journaliste. Je rappelle les références de votre ouvrage, La faim, la bagnole, le blé et nous, c'est paru chez Fayard. Dans quelques instants sur RFI, un nouveau journal.